affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Dans notre émission de ce jour, il sera question de notre rapport à la modernité. Un rapport finalement plus problématique que l'on croit. En effet, depuis que nos sociétés traversent une série de crises, crise économique et sociale bien sûr, mais aussi crise politique, et plus profondément encore probablement crise morale, la modernité est devenue une question. En effet, si la modernité a pu être autrefois héroïque puis triomphante, on se souvient de la formule de Rimbaud, il faut être résolument moderne, eh bien aujourd'hui elle prend une bien autre figure, elle prend les traits de la lassitude, du désenchantement, voire du doute. Alors que l'optimisme était son carburant, elle semble sécréter plutôt aujourd'hui le pessimisme. Alors qu'elle se voulait une fête, elle s'enfonce désormais dans une forme de triste morosité. Alors qu'elle annonçait des lendemains enchanteurs, elle se montre incapable, semble-t-il, de se projeter encore dans l'avenir. Face à ce constat, certains en appellent, de façon peut-être un petit peu incantatoire, à reprendre le mouvement, à se ressaisir du flambeau du changement, à inventer de nouvelles utopies. Pourquoi pas ? Mais d'autres prennent le parti contraire, le parti inverse, celui de se demander si plus que la solution, la modernité ne serait pas plutôt le problème. Tel est en tout cas la position défendue par notre invité, Rémi Brague. Rémi Brague, bonjour.
Bonjour et merci.
Rémi Brague, vous êtes philosophe, spécialiste des philosophies médiévales juives et arabes, tout en étant familier de la philosophie grecque ancienne. Et bien sûr, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez récemment publié un ouvrage dont le titre claque comme l'exact contre-pied de la formule de Rimbaud, puisqu'il est titré « Modérément moderne ». Rémi Brague, modérément moderne, est-ce ainsi que vous définissez ?
Mais tout à fait, je n'ai pas choisi ce titre pour le pur plaisir du calembour, même si j'ai un goût trop prononcé pour ce genre de jeu de mots. Mon titre veut exactement dire ce qu'il dit, à savoir qu'il n'est pas question de s'engager soit dans le désir d'une modernité absolue, selon la formule de Rimbaud, que j'ai d'ailleurs défigurée dans la première édition de ce livre. Je lui ai fait dire qu'il fallait être résolument moderne, et je vous ai là induit en erreur, je le crains. Il a dit, en fait, il faut être absolument moderne.
Alors, encore pire.
Oui, d'une certaine manière, c'est encore plus décidé. Mais mon titre n'a nullement l'intention de claquer. Il est lui-même modéré. Il y a peu de choses que je déteste plus que la pensée binaire, qui consiste à poser aux gens une question fausse, mal formulée, mal pensée, et à leur dire ensuite « bon, oui ou non », qui consiste à sortir une notion gélatineuse, sans contour précis, et de leur dire « bon, vous êtes pour ou contre ?» Loin de moi, ça serait attenter, si je puis dire, à la déontologie de la profession de philosophe que j'essaye d'exercer, loin de moi d'entrer dans ce jeu. Modérément moderne, cela veut dire exactement ce que cela veut dire, à savoir, eh bien, regardons, consommons avec modération, n'est-ce pas ? Comme on nous recommande de le faire sur les publicités en faveur de boissons alcoolisées. Alors, modérément moderne, ça veut dire regardons un petit peu de quoi il s'agit. Ne nous laissons pas emballer dans un sens qui est celui du courant dominant, donc d'un acquiescement moutonnier à la passion du nouveau. Ne nous laissons pas non plus entraîner dans une attitude d'idéalisation du passé, mais essayons de voir si l'on peut faire bon usage de tout ce que la modernité nous offre. Tout ce qu'elle nous offre et qui n'est pas uniformément bon, mais qui n'est pas uniformément mauvais. Donc j'en appelle tout bêtement au jugement, à la critique. Vous avez parlé de crise tout à l'heure. Je crois que la meilleure réponse à la crise, c'est justement une attitude critique, qui regardent d'un petit peu plus près ce que l'on veut nous vendre, qui examinent la marchandise qui vogue sous des pavillons glorieux, et qui s'interroge sur ce qu'il est bon de garder, sur ce qu'il est bon de jeter.
En somme, il s'agit d'appliquer au temps moderne et contemporain l'attitude intellectuelle qui était celle justement des modernes à l'égard des périodes passées.
Ce n'est pas seulement l'attitude des modernes envers le passé, c'est l'attitude, si je puis dire, de tout moderne par rapport à son propre passé. Et la modernité est un concept glissant au sens du curseur qui se déplace sur le support qui est le sien. En ce sens que les gens du Moyen-Âge étaient modernes par rapport à l'Antiquité. C'était d'ailleurs comme cela qu'ils se désignaient eux-mêmes. L'adjectif « modernus » a été forgé au Moyen-Âge pour désigner soit les apports du christianisme par rapport au paganisme ancien, soit certaines écoles de dévotion, en particulier la fameuse « devotio moderna », soit des tendances philosophiques, par exemple nominaliste, par rapport à la scolastique thomiste et scotiste qui les précédait. Enfin, peu importe ces détails, toujours est-il que l'attitude de critique, d'examen sobre, dégrisé de ce qui nous a été transmis d'une part et de ce qui nous est proposé de l'autre, est tout simplement l'attitude du philosophe. Et ici, d'ailleurs, le philosophe n'a pas de privilège corporatiste particulier. C'est l'attitude que doit avoir, je crois, toute personne prudente, toute personne qui refuse de se laisser, enivrer, intoxiquer, soit par l'ivresse du nouveau, soit par la nostalgie du passé. Donc je ne fais avec ce livre qu'un travail de philosophe.
Et à l'issue de ce travail de philosophe, quelles sont vos conclusions ? Il y a un moment où vous semblez dire, penser, induire que la crise actuelle que nous traversons actuellement, je ne parle pas de la crise économique et sociale, mais plutôt de la crise morale, cette sorte d'essoufflement d'énergie, ne serait pas un accident, mais c'est relié à des vices intrinsèques de la modernité. C'est bien exact.
Ce que j'appellerais pour ma part crise, comme vous savez, c'est un concept médical, c'est un concept hippocratique. Ce que j'appellerais crise, c'est la forme aiguë que prend cette maladie que je m'amuse à appeler la modernite. En retirant simplement l'accent aigu du mot « modernité ». Plagiant de la sorte André Suarez, qui se moquait du fascisme italien, avec sa passion de la romanité, en inventant une maladie qui est la romanite. Alors ce calembour léger m'a valu quelques difficultés, puisque les typographes ou les correcteurs d'orthographe informatiques rajoutent, ça m'est arrivé très récemment dans un petit article publié dans une revue d'ailleurs tout à fait sympathique, où j'avais soigneusement distingué modernité et modernite, et bien entendu, la machine bête comme un ordinateur, si je puis dire, a rétabli l'accent. Alors bon, je distingue entre modernité et modernité, ce qui doit laisser le lecteur un petit peu perplexe. Une maladie en « it », comme vous le savez, à la différence d'une maladie en « ose », qui est une maladie de déformation d'un organe, est une maladie inflammatoire. Donc c'est une maladie de l'excès, c'est une maladie de l'intoxication, de ce qui résulte du fait de ne pas consommer avec modération, pour reprendre l'image éthylique que j'ai déjà mentionnée. Eh bien, la modernite, c'est s'imaginer que tout nouveau, tout beau. que s'il suffit de vanter un produit en disant qu'il est nouveau, pour qu'il passe immédiatement pour meilleur. Alors cela peut être le cas lorsqu'il s'agit, je ne sais pas, d'une voiture ou même d'une boisson ou de n'importe quel produit, de n'importe quelle marchandise. Mais cette attitude consumériste n'est pas nécessairement de mise là où il s'agit de valeurs non marchandes, si je puis dire. Où il s'agit de valeurs tout court. C'est un mot que j'aime pas tellement employer, mais enfin bon, il passe tellement facilement que je ne résiste pas à la facilité. Donc cette crise, ben, ça serait peut-être le fait de se rendre compte que tout ce qui est nouveau n'est pas nécessairement meilleur.
D'ailleurs, un autre aspect dans votre livre, c'est que tout ce que l'on présente comme nouveau n'est pas nécessairement aussi nouveau qu'on veut bien le croire.
Alors ça, c'est le désenchantement, si je puis dire, de l'historien qui, n'ayant pas le nez dans le guidon de l'actualité, se rend compte parfois que l'on veut nous vendre comme le dernier cri de la pensée contemporaine, des ressucés, des pensées réchauffées. Je pense par exemple à la religion de l'humanité que l'on a essayé de nous vendre il y a une petite dizaine d'années et qui est déjà, avec armes et bagages, et d'ailleurs pensée d'une manière beaucoup plus rigoureuse, chez Auguste Comte. Donc le procédé, disons, de pub, qui consiste à dire « vous allez voir ce que vous allez voir, à partir de dorénavant et désormais inclus, on va avoir du totalement nouveau ». Bon, et puis on s'aperçoit souvent qu'il s'agit de vieux trucs dissimulés sous des oripeaux clinquants.
Alors, vous évoquez aussi d'autres termes ou concepts plus... profond,
oui.
Sérieux, celui de sécularisation,
d'athéisme. Oui, je prends certains concepts tout à fait au sérieux et j'essaye de les examiner en voyant quelle en est la loi. Est-ce que parler de progrès, c'est une chose simple? Est-ce que parler de sécularisation, c'est une chose simple? Est-ce que parler de la substitution à la superstition, d'une attitude rationaliste, est-ce que ça tient vraiment le coup? Alors je pose ces questions. Ce sont des questions d'affreux jojo, ce sont des questions provocatrices, puisque chacun de ces concepts est une mare dans laquelle j'essaye de jeter mon petit pavé. J'essaye de faire ça gentiment, sans polémique, sans insulter personne, contrairement à certains penseurs ou prétendus tels qui remplacent l'insulte. Qui remplace l'argument par l'insulte. Bon, ça ne correspond pas tellement à mon tempérament. J'essaye d'être modéré comme dans l'adverbe qui me sert de titre.
Peut-on prendre certains de ces concepts et en examiner la trajectoire, le parcours et même les mutations, car bien sûr, ils traversent les siècles, mais en se transformant.
Mais oui, par exemple, le premier, c'est le concept de modernité lui-même, qui a cette particularité qu'il est, comme je l'ai dit, glissant. En ce sens que l'on est toujours plus moderne qu'hier et moins moderne que demain. Ce qu'il y a de remarquable dans la cristallisation du concept de modernité, tel qu'elle s'opère, Baudelaire est le premier en français à lui avoir vraiment donné ses lettres de noblesse, mais bon, il faudrait en reconstituer l'histoire, ce que je n'ai fait que superficiellement dans mon livre, ça n'était pas mon propos. En tout cas, il y a un phénomène intéressant, c'est qu'à partir d'un certain moment, on s'est dit, bon, maintenant, nous serons toujours modernes. Nous serons toujours en train de nous séparer de ce qui a précédé. Et non pas simplement comme chaque instant se sépare de l'instant qui le précède pour préparer celui qui va le suivre, mais d'une manière définitive. en ce sens que l'on a inventé une catégorie, les temps modernes, dans lesquels nous sommes, dans lesquels nous avons une sorte de devoir d'être de plus en plus décidément, en nous détachant de plus en plus radicalement de la période qui l'a précédée, et qui est une sorte de poubelle chronologique, à la fois fixe, mais commodément amovible, puisque la catégorie en question, c'est bien entendu le Moyen-Âge, n'est-ce pas ? On peut toujours trouver des rémanences du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, pour les exécrer d'une manière de plus en plus décidée. Il est particulièrement amusant, spécialement pour le médiéviste que j'essaye d'être, même si je ne suis pas historien du Moyen-Âge, mais simplement historien de certains aspects de la pensée médiévale, il est très amusant de voir, d'entendre plutôt des horreurs contemporaines, des horreurs du XXe siècle, ou même du XXIe siècle. Notre siècle actuel n'a pas l'air de s'être beaucoup assagi par rapport à son prédécesseur. Il est amusant, disais-je, d'entendre des horreurs contemporaines qualifiées de médiévales. On entend dire les gens de Boko Haram ou les gens de l'État islamique voudraient un retour au Moyen-Âge. Enfin, ils ont des pratiques médiévales. On nous resserre constamment cet adjectif évidemment péjoratif. Moi, je dirais plutôt, toujours dans l'esprit agent provocateur qui est parfois le mien, agent provocateur en chambre, rassurez-vous, je dirais, mais on trouve au Moyen-Âge des horreurs qui préfigurent le XXe siècle et des horreurs qui, en cet âge éclairé qu'était le Moyen-Âge, annoncent l'obscurantisme contemporain. Je crois qu'il faut s'amuser de la sorte, j'exagère évidemment à des fins pédagogiques, mais il faut s'amuser de la sorte à retourner un peu le regard et à essayer de se regarder soi-même, de regarder notre propre époque telle qu'elle ferait horreur. Je crois que Torquemada aurait horreur des procès de Moscou. Je crois que les croisés massacrant les habitants de Jérusalem auraient horreur du goulag. Ils trouveraient que vraiment, là, on exagère, qu'on en fait trop, que c'est monstrueux. Alors, bon, sans aller aussi loin dans la plaisanterie, je crois qu'il faut examiner ce que l'adjectif « moderne » peut vouloir dire. Qu'est-ce que c'est que ce désir forcené de vouloir se détacher de ce qui nous a fait ? Qu'est-ce que c'est que cette passion de larguer les amarres ? Est-elle bien raisonnable ? Est-ce raisonnable ? C'est quand même la question fondamentale du philosophe. Et on ne peut pas se débarrasser de ces atavismes professionnels.
La réponse est un petit peu contenue dans la question, mais alors justement, est-ce raisonnable ? Quelle est la conséquence de cette posture, de cette façon d'être au monde ? D'être au monde toujours en rupture ?
Cette façon d'être au monde toujours en rupture aboutit au sentiment que non seulement nous ne devons rien au monde, mais que le monde ne nous doit rien, que nous y sommes comme des sortes d'étrangers, et que nous y sommes comme des enfants illégitimes, qui ne peuvent s'empêcher de se demander s'il est vraiment bon, s'il est vraiment juste qu'ils existent. La fine pointe peut-être de la modernite, je dis bien la modernite sans accent aigu, la fine pointe de cette maladie inflammatoire dont j'essaye de faire le diagnostic, eh bien c'est l'abandon de l'idée de légitimité de l'humain. C'est une notion sur laquelle j'ai déjà écrit un livre, c'est mon précédent bouquin. qui s'appelle encore d'ailleurs, Le propre de l'homme. Mon souci, si vous voulez, c'est de constater que l'homme contemporain n'est plus capable d'expliquer pourquoi il est légitime qu'il existe. Et il se ressent lui-même de plus en plus comme une sorte de parvenu, quelqu'un qui a eu de la chance, disons un singe réussi, mais quelqu'un qui se demande s'il faut qu'il reste là où il est. Ce sentiment me semble être au fond, tout au fond de cette morosité, de ce pessimisme que vous avez si bien esquissé dans votre introduction. Au fond de cela, il y a, je crois, l'idée suivant laquelle on ne sait pas trop bien s'il vaut vraiment la peine de défendre ce qui nous fait vivre. La rhétorique des valeurs à défendre s'en donne à plein en ce moment. Enfin, on n'entend que ça. Il faut défendre nos valeurs, éventuellement les défendre militairement en intervenant contre les espiègles que j'ai nommés tout à l'heure. Bon, mais...
Ça tourne un peu à vide.
Oui, ça tourne un petit peu vite parce qu'on se demande finalement si on a bien raison de faire ça, si peut-être ces gens, évidemment, un petit peu extrêmes, un petit peu brutaux peut-être, ne représenteraient pas une forme de vie plus vivante que celle qui est la nôtre. Si bien qu'on y va un peu à reculons. Je ne parle pas d'un engagement militaire, je parle d'un engagement plutôt intellectuel. On se demande si ces valeurs occidentales que l'on justement qualifie d'occidentales, c'est-à-dire qu'on les localise, si l'occidental ne serait pas accidentel, si j'ose un calembour de plus, et s'il vaut vraiment la peine de s'engager pour lui, de risquer peut-être jusqu'à sa vie ou la vie de ses enfants pour promouvoir tout cela. Alors j'en veux pour symptôme le fait que nous nous demandons de plus en plus si l'homme, ou peut-être simplement l'homme sous sa version occidentale, mérite vraiment d'être défendu.
Oui, il y a deux aspects dans ce que vous dites. On a l'impression que c'est comme une poupée gigogne. Au premier étage, il y a le déni de soi ou la haine de soi qui semble effectivement une des pathologies de l'homme occidental ou européen, en tout cas aujourd'hui. Mais au deuxième stade, c'est beaucoup plus grave. C'est une interrogation plus fondamentale sur la légitimité de l'être humain lui-même. C'est une interrogation moins historique, moins située dans le temps, mais plus métaphysique.
Oui, il se trouve simplement que certaines réflexions, alors qui sont, je crois, métaphysiques, je crois qu'il faut oser ce qui est devenu presque un gros mot de nos jours, certaines réflexions ont été portées à leur incandescence par des penseurs occidentaux. Et il n'est pas exclu que si d'autres régions du monde se mettent au diapason occidental, ces questions-là aussi affleurent. Et fassent plus qu'affleurer, qu'elles occupent toute la scène. La question est de savoir justement si cette intensité de la pensée, si cette profondeur poignante, au sens propre du terme, comme le poignard, n'est-ce pas, cette profondeur poignante de la réflexion doit aboutir à se généraliser ou pas. Si le monde doit adopter les mœurs occidentales, et là je ne parle pas d'écologie ou de choses comme ça, souci tout à fait légitime et que je partage en grande partie, si le reste du monde doit adopter les mœurs occidentales, en particulier en matière de démographie, il n'est pas difficile de savoir quelle sera l'issue, à savoir une porte de sortie très radicale. Alors nous en sommes quasiment venus à penser que le projet moderne, le projet des Lumières, le projet de désenchantement, le projet de sécularisation que vous avez nommé tout à l'heure, ferait bien de ne pas trop se généraliser si l'humanité doit continuer à exister. Parce que les conséquences de ce processus dans le petit morceau de la Terre qui l'a vu naître peuvent être tout à fait délétères. Donc on pourrait dire que...
Pour le nommer, c'est une forme d'effacement.
Ah ben bien sûr, c'est une forme de disparition, c'est une forme d'extinction. Enfin, bon, c'est la mort sans phrase. Bien. Mais on en vient à se demander si nous ne serions pas en présence ici d'une version tout à fait concrète de ce que l'on a appelé la dialectique des Lumières. Je fais bien entendu allusion au livre de Adorno et Horkheimer, paru juste après la fin de la guerre, enfin rédigé pendant la guerre, pendant la fin de la guerre, et paru juste après. Cette dialectique des Lumières prendrait donc l'aspect concret, selon lequel nous devrions souhaiter que les Lumières ne se généralisent pas. Nous devrions souhaiter qu'elles restent, disons, l'apanage ou le folklore de l'Occident. Parce que si elles devaient se généraliser, elles entraîneraient le reste de l'humanité dans le déclin et la disparition à laquelle l'Occident semble entêté de se jeter. Alors on devrait donc être, si je puis dire, modérément éclairé. Parce que si nous étions absolument éclairés, eh bien, les Lumières se transformeraient en un incendie destructeur. Il y a une phrase de Leopardi que je cite, je crois, dans mon livre et que je trouve très belle. Il dit que les Lumières doivent éclairer et pas incendier. C'est dans le Zibaldone et dans son espèce de recueil de pensée qu'il jetait sur le papier pour lui-même et qui a pris un volume extraordinaire. Enfin, l'édition que j'ai doit faire quelque chose comme 2000 pages.
Bon, enfin, une image reprise par Donoso Cortés aussi, je crois. Hein.
Pardon Je crois que je cite quelque part Donoso Cortés, qui était lui un franc réactionnaire, ce que je ne suis pas, et ce que Leopardi n'était surtout pas.
Ce qui n'était pas initialement non plus, d'ailleurs.
Ce qui n'était pas initialement, non, il a dû mettre de l'eau dans son vin révolutionnaire, et peut-être aller un petit peu trop loin dans l'autre direction, comme c'est souvent le cas lorsque l'on se dégrise d'une intoxication excessive.
Pour se protéger de cette pathologie, la modernite, on peut d'une part souhaiter que ça ne tourne pas à la pandémie, vous l'avez fait, merci pour les autres. Pour se soigner soi-même, y a-t-il des antidotes ? Et ne se situe-t-il pas justement dans un passé que vous décrivez beaucoup plus riche qu'on ne le pensait?
Oui, avec ce bémol que un retour au passé est souvent un retour, et peut-être même toujours, un retour à l'image que l'on se fait du passé, image qui ne correspond pas toujours, ou qui correspond même rarement, à la réalité. Donc je crois qu'il faut se garder d'idéaliser le passé, mais tout simplement mettre en œuvre ce que Hercule Poirot appelait les petites cellules grises. Et l'antidote que je propose n'est pas un remède de cheval, c'est simplement de réfléchir un petit peu. de se demander s'il n'y aurait pas justement des critères qui ne sont pas liés au temps et qui consistent à se poser la question toute bête, éternelle, si l'on veut, du bien et du mal. Ce que l'on nous propose, est-il bon ou mauvais? Alors ces termes sont presque devenus injurieux maintenant, puisque quand on dit que quelque chose est mauvais, bon ben on le stigmatise. L'inventeur du verbe stigmatiser a dû toucher des dividendes absolument fantastiques. Enfin, je regrette vraiment de n'y avoir pas pensé moi-même. Ma fortune serait faite alors qu'il est. Mais bon, si l'on se dit qu'il y a peut-être des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises, des choses qui promeuvent la vie et des choses qui mènent à la mort, pour être beaucoup plus concret, je crois qu'on peut essayer de faire le départ entre les innovations qui mènent à la vie et les innovations qui débouchent sur la mort.
Et faire le départ aussi entre, dans notre héritage, présent qu'on le veuille ou non, si j'ai bien compris, entre ce qui mérite d'être transmis et ce qui ne doit pas l'être.
Bien sûr. Avec cette remarque que j'ajouterais, que nous-mêmes, avec notre mentalité, avec notre sensibilité, nous ne nous sommes pas inventés nous-mêmes. Nous faisons partie de l'héritage. Il n'y a pas d'un côté des sujets qui apparaîtraient comme ça, comme des champignons ou par génération spontanée, et puis d'autre part, un donné qu'il faudrait recevoir. La manière même dont nous pensons, notre optique, si je puis dire, les lunettes que nous avons sur le nez et qui sont, comme chacun sait, la chose que l'on voit le moins parmi tout ce qui existe, puisque c'est à travers elles, c'est par elles que l'on peut voir, eh bien, tout cela nous a été transmis. Donc l'inventaire doit commencer par un examen de soi. Et là encore, vous m'excuserez de plaider un peu pro domo, enfin de faire l'apologie de ma corporation, là aussi, c'est un souci essentiellement philosophique. Se connaître soi-même, bon, le saint patron de ma corporation, Socrate, avait inscrit ça sur ses drapeaux.
Encore faut-il se connaître soi-même, non pas simplement comme individu, mais comme personne s'inscrivant dans une lignée issue du passé et ayant un avenir, c'est-à-dire des responsabilités.
Bien sûr, la notion d'individu est tout à fait abstraite. Hein. Nous sommes des personnes qui parlent une langue déterminée, qui sont nées à une époque déterminée, à un endroit déterminé, dans un milieu déterminé. Bon, ce sont des banalités, mais qu'il est bon de rappeler. Nous ne sommes pas cette espèce de ego flottant nulle part qui pourrait s'arroger le droit de décider de tout. Non, je crois qu'il faut savoir que nous nous sommes reçus, si je puis dire. Hein, qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est de cela qu'il faut essayer de tirer le meilleur parti possible.
Si je peux vous faire un aveu, lorsque j'ai commencé votre livre, je me suis dit, tiens, nous allons avoir droit à une réhabilitation du passé. Et finalement, j'ai découvert un livre qui est traversé essentiellement par une forme d'inquiétude quant à l'avenir. Bien évidemment, les questions sont liées, vont de pair, vous le démontrez. Sans passé, sans connaissance du passé, sans conscience de celui-ci, on ne se projette plus vers l'avenir. Est-ce que vous pouvez développer ce paradoxe intéressant qui semble être le nœud du problème aujourd'hui?
Écoutez, je commencerai par réfléchir deux minutes sur la notion de réhabilitation. J'en ai appris le sens espagnol, justement en Espagne, au moment où il fallait me soigner d'une crampe. Bon. Réhabilitation, ça veut dire ce que nous appelons rééducation. Ça ne consiste pas à faire l'éloge, mais à rendre à nouveau capable d'agir, à redonner son habileté à quelqu'un qui l'a perdu. Alors, réhabiliter le passé, ça n'est nullement en faire l'éloge, ça n'est nullement le regretter, mais c'est essayer d'en faire sortir ce qui peut encore servir, de remettre le sac au dos aux éléments du passé qui peuvent nous rendre encore de bons services. Et le premier service, ben, c'est justement de nous faire comprendre que nous sommes nous-mêmes le passé d'un avenir. Nous sommes ce qui aura été. Le passé, c'est l'avenir de l'avenir. L'avenir, c'est ce qui un jour sera passé. Alors très concrètement, eh bien, nous pouvons nous sentir une responsabilité envers les générations futures. Et bon, ce souci se fait jour dans le mouvement écologique, par exemple, mais partout ailleurs. Enfin, en tout cas, il devrait se faire jour dans beaucoup de lieux de notre culture. La responsabilité envers les générations futures suppose que nous prenons conscience du fait que nous avons été nous-mêmes le futur d'un passé. Encore plus concrètement, nous ne pouvons être les parents de nos enfants que si nous comprenons que nous sommes les enfants de nos parents. Et c'est là qu'il faut redonner ça, qu'il faut réhabiliter, j'insiste, eh bien, la notion glissante de la modernité. C'est-à-dire que demain sera plus moderne qu'hier, aujourd'hui est plus moderne qu'hier et moins que demain, etc. Je ne plaide nullement contre la modernité, je souhaite au contraire qu'il continue à y avoir une modernité, mais une modernité quotidienne, non pas celle de l'engouement pour le dernier produit qui vient de sortir, mais le souci de ce qu'il y ait un avenir. Et nous sommes là placés devant des responsabilités extrêmement graves, puisque finalement l'existence de l'avenir dépend de nous. L'avenir n'est pas quelque chose qui va nous tomber tout rôti, il est quelque chose que nous ne cessons de produire, ou que nous ne cessons de préparer, dont nous ne cessons en tout cas, dont nous ne devrions cesser en tout cas, de mettre en place les conditions de la réalisation. Si nous ne mettons pas en place aujourd'hui les conditions de demain, ben il n'y aura tout simplement pas de lendemain.
Au fond du fond, la crise actuelle n'est-elle pas finalement une crise de la transmission? Et si oui, comment y remédier? Tenter d'y remédier.
J'aime mieux le mot transmission que le mot de tradition, qui veut dire exactement la même chose d'ailleurs en latin, mais le mot tradition, traditionnel, traditionalisme, ayant pris des connotations désagréables, sans doute d'ailleurs bien à tort, mais enfin on ne va pas remonter, on ne va pas lutter contre des années d'imbécilité en un quart d'instant. J'aime bien ce mot parce que il est actif, alors que tradition est souvent compris comme quelque chose que l'on ne fait que recevoir ou comme le ballast que nous traînons avec nous. Transmission est un procédé actif, enfin c'est une activité, hein, c'est un geste qui se tourne vers l'avenir, et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être là-dessus que j'aimerais que l'on garde un souvenir de ce que j'aurais dit, à savoir il n'est pas du tout question de se retourner vers le passé, mais il est question d'y chercher les conditions d'un avenir.
Une autre image sur la tradition, celle de Cocteau, celle d'une, disait, la tradition est une statue qui marche. Joli aussi, non ?
C'est assez joli, oui, ça vient sans doute d'un passage du Ménon de Platon. Oui, c'est les statues de Dédale, bon, dont on dit qu'il fallait les lier pour empêcher qu'elles ne s'enfuient. Bon, c'est joli, mais je ne sais pas si ça a un sens.
Oui, moi, je vois j'y vois un sens, si je permets d'argumenter en faveur de Cocteau. La tradition n'est pas quelque chose de figé, au contraire, c'est quelque chose de nécessairement dynamique et qui vient certes d'un point situé dans le passé, mais qui se dirige résolument vers l'avenir, ce qui est également, si j'ai compris, le propos de votre livre.
Bien sûr. La première dimension du temps, c'est l'avenir. Hein, c'est à partir de l'avenir que le temps se temporalise, comme disait Heidegger. Bon, mais ça n'a pas tellement d'importance ici. Ce que je cherche à faire, je le répète, c'est plutôt de faire en sorte qu'il y ait un avenir. Alors que le slogan « No future semble prendre des dimensions tout à fait dévastatrices.
Pour être beaucoup plus concret, pour agir soi-même, pour se préparer soi-même à lutter contre cette pathologie, nous sommes tous peu ou prou atteints. Comment procéder ? Comment nos auditeurs peuvent-ils procéder pour s'armer contre ce mal insidieux ?
Déjà cesser de cracher contre le passé, ce qui est d'autant plus facile que ce passé n'est pas le nôtre, mais celui de nos ancêtres. Rompre avec la haine de soi, qui a pris l'Occident en proie depuis quand même déjà pas mal de temps, et qui fournit le fonds de commerce de pas mal de, disons, d'écrivains ou de journalistes. Je ne parle pas d'ici de penseurs, bien entendu. Je fais remarquer d'ailleurs au sujet de cette haine de l'Occident qu'il faut avoir dessus un regard historique, c'est-à-dire se demander ce qui s'est passé et surtout ce qui pouvait se passer. Enfin, on fait remarquer que l'Occident a rempli le monde de toutes sortes d'horreurs. Mais on oublie de faire remarquer que déjà il pouvait le faire. C'est ce que j'exprime sous la forme d'une parabole que j'ai inventée, enfin je crois l'avoir inventée, ou d'une fable plus exactement, d'une fable dans le style de La Fontaine, que j'appellerais l'éléphant et la souris dans le magasin de porcelaine. Elle s'énonce ainsi, je ne peux pas la dire en vers parce que je ne suis pas du tout poète. Un éléphant très gentil, un saint homme d'éléphant, et une souris très méchante, une horrible souris, très perverse, très cruelle, entrent en même temps dans un magasin de porcelaine. Celui qui fait des dégâts, c'est l'éléphant. C'est pas la souris, c'est pas parce qu'il est gentil, c'est parce qu'il est gros. Eh bien, l'Occident a été, envers le reste du monde, envers le magasin de porcelaine du reste du monde, comme cet éléphant, avec cette différence qu'il n'était pas particulièrement gentil, mais il n'était pas plus méchant qu'une autre civilisation. Simplement, bon, il a eu la possibilité physique d'agir sur les autres civilisations. Je ferai d'ailleurs remarquer que chaque fois qu'une civilisation a la possibilité physique, technique et militaire d'agir sur une autre, elle ne se conduit pas beaucoup mieux que l'Occident ne l'a fait dans le cours de son histoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous n'avons pas à battre notre coulpe constamment, d'autant plus que cette coulpe ne mène à aucune absolution. La confession, c'est très bien s'il y a l'absolution. Or, nous sommes engagés depuis quelques dizaines d'années dans une sorte de confession perverse qui n'est suivie d'aucune absolution et qui ne peut que nous paralyser, qui ne peut même que nous empêcher de reconnaître ce que nous avons fait de mal, puisque la seule stratégie possible pour échapper à une confession sans absolution, c'est la dénégation pure et simple. Ce qui serait, historiquement, indéfendable. Alors je crois qu'il y a des choses à faire, une sorte d'examen de conscience, si vous voulez, mais un examen de conscience qui irait dans les deux directions, qui ne se contenterait pas de dire nous avons fait des choses mauvaises, mais qui poserait la question beaucoup plus concrète, quel problème l'Occident voulait-il résoudre ? Quelles sont les stratégies qu'il a mises en place pour résoudre les problèmes en question ? Par exemple, celui de son contact avec d'autres civilisations dû à son avance dans les domaines de la navigation, de l'orientation et de l'armement. Je crois qu'il faut procéder à cela. Et là, je ne suis pas historien, je suis un peu content de ne pas l'être, si je puis dire. Enfin, j'ai honte de ne pas l'être d'une certaine manière, mais j'en suis content parce que j'aurai tellement de pain sur la planche que je ne pourrai certainement pas en venir à bout.
Vous avez évoqué la nécessité de se pencher sur l'histoire. Je sais que si vous n'êtes pas historien, vous n'êtes pas davantage prophète, mais comment imaginez-vous la suite de ce déroulement, la façon dont les idées évoluent, sont au départ triomphantes, pleines de vitalité, de dynamisme, car cela a été cela aussi la modernité, pour finir dans une sorte d'aphasie. Le stade suivant, docteur, quel peut-il être ?
Vous avez parlé de crise tout à l'heure, vous savez que ça désigne dans la médecine hippocratique le moment où se décide de la survie ou non du patient. Si le patient surmonte la crise, un avenir s'ouvre devant lui. S'il y reste, il y reste, au sens argotique du mot. Je n'ai pas de réponse. Je vous ai dit tout à l'heure, je crois que dans une conversation privée, que j'étais totalement dépourvu d'imagination et que j'essaye simplement de regarder ce qui est, enfin ce qui a été, parce que c'est plus facile. Ça s'est un petit peu refroidi, ça s'est un petit peu calmé. De jeter aussi un regard discret et incompétent sur nos sociétés contemporaines. Quel sera leur avenir ? Je n'en sais rien. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que si l'on continue d'aller dans une direction déterminée, on va dans le mur. Si l'on va dans une autre direction, on va peut-être pouvoir continuer. Et mon souhait le plus cher est évidemment que nous continuions.
Très bien, vous avez évoqué aussi la nécessité de porter un regard critique mais équilibré sur notre passé, et y compris d'ailleurs sur les aspects contemporains de nos sociétés. Pour se livrer à cet exercice, la première chose que, pour ma part, je peux conseiller, c'est de se reporter à votre ouvrage.
Je vous remercie.
Dont je rappelle les références. Il s'agit de Modérément moderne, bien évidemment écrit par Rémi Brague, et c'est édité aux éditions Flammarion. Rémi Brague, je vous remercie, mais vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je suis un petit peu prophète aussi. Là, je vais vraiment pousser la provocation à l'extrême. Et je pense tout simplement à ce passage d'Ézéchiel, au chapitre 33, dans lequel il compare sa mission à celui du gardien de nuit dans une ville, le gars qui est sur les remparts. Et si le gardien prévient que l'ennemi arrive et que l'ennemi prend la ville, on le laisse tranquille, mais si l'ennemi met le siège et que le gardien se tait, eh bien alors là, on va lui demander des comptes. Alors le prophète se compare à ce bonhomme-là, chargé de la tranquillité de ses concitoyens, et il dit, c'est comme si Dieu me disait, si tu avertis les gens et qu'ils meurent dans leur péché, c'est leur affaire. Si tu ne les avertis pas, si tu te tais, et qu'il continue dans ses péchés dont la logique interne mène à la mort, eh bien, c'est à toi que je te demanderai des comptes. Alors, sans du tout monter sur une petite caisse à savon, sans du tout faire comme le prophète Philippulus au début de l'Étoile mystérieuse, bon, Tintin est un de mes auteurs préférés, sans du tout prendre cette posture ridicule, bah, je crois que c'est un petit peu la tâche de tout intellectuel, prévenir, et puis le reste ne dépend plus de lui.
Merci beaucoup. Nous voilà prévenus, donc.
Absolument.
À chacun d'agir, finalement, c'est aussi cela que vous disiez.
Vous en valez deux, maintenant.